de ces rencontres dites chantier de fouille, parce qu'en plus c'est un livre extrêmement réflexif sur la pratique d'écriture, sur l'engagement social, sur l'évolution psychique, personnelle profonde et les liens entre tout ça. Donc c'est un livre qui, à sa façon, une façon volontairement, je pense, alors c'est pas tortueuse, mais intelligente et circulante, fait le point. Hein, c'est pour ça que je mets pour les gommettes, parce qu'il fait le point sans affirmer des choses définitives sur un travail d'écriture, un engagement, un intérêt pour le monde, hein, qui est celui d'Arnaud Bertina, en tant que romancier comme non-fictionniste, ce qui a pu arriver aussi, je ne sais pas comment appeler ça, c'est-à-dire vous êtes également l'auteur de récits, mais on vous connaît en premier lieu comme romancier et non comme essayiste, et ce livre-là est une forme de récit réflexif, hein, je dirais ça plutôt qu'un essai, puisqu'il s'agit avant tout de partir d'une expérience réellement arrivée, bouleversante, une expérience en lien avec l'écriture, avec la littérature, d'ailleurs c'est la littérature qui vous y mène, à rencontrer une part du monde qui vous était inconnue, et qu'il est encore partiellement, hein, c'est aussi ce que le livre respecte, c'est la part d'interrogatif et d'ineffable qu'il y a dans ces expériences d'altérité profonde. Je ne veux pas faire le pitch d'emblée, parce que j'aimerais qu'Arnaud nous le raconte tout à l'heure, la mise en situation, et je vais vous laisser le choix d'ailleurs pour démarrer, soit d'introduire le contexte de ce livre, soit d'aller de but en blanc dans un temps de lecture qu'il dirait, de procéder dans l'ordre que vous voulez, soit lecture avant, soit introduction, plus précise que celle que j'ai faite, mais volontairement, je ne veux pas y aller, parce que si on se met à raconter, il y a un certain nombre de choses à raconter, et je veux vous laisser la parole.
Bonjour. Merci, Guénel. Oui, non, quand même un peu d'éléments de contexte. Je faisais un travail à Pointe-Noire au Congo, qui est la capitale économique du Congo-Brazzaville, et c'était un travail avec des lycéens autour d'un texte de théâtre, et au cours de ce séjour, en fait, j'ai rencontré donc les gens qui travaillent dans cette toute petite ONG qui s'appelle Asie pour Action de Solidarité Internationale, qui est une toute petite ONG avec très très peu de moyens et qui s'occupe de la réinsertion des filles mineures qui se prostituent dans Pointe-Noire et dans Brazzaville. On a imaginé d'essayer de faire un travail ensemble qui était de recueillir la parole de ces filles-là pour qu'elles arrivent, au moins dans le langage, au moins dans l'échange avec les autres, à se purger de la honte qui est la leur d'avoir vécu ce qu'elles ont vécu, de le vivre encore, même pour la plupart, et donc de devenir, en faisant le récit de leur vie, de devenir un peu actrice de leur vie, c'est-à-dire pas simplement j'ai été malmenée par la vie, j'ai été malmenée par les hommes, j'ai été malmenée par ma famille, mais aussi arriver à reprendre un peu pied dans leur propre existence. Et donc, on a monté cet atelier d'écriture qui, en fait, très vite s'est avéré complètement impossible parce que la plupart, évidemment, ont quitté l'école très tôt, donc elles ne sont pas en mesure d'écrire elles-mêmes. Et donc, ça s'est transformé, en fait, en entretien individuel. Et je suis revenu une troisième fois à Pointe-Noire, et ensuite, je suis allé deux fois à Brazzaville. À chaque fois, c'était des séjours longs, c'est-à-dire je restais un mois sur place, et le seul fait de me voir revenir pour les filles était quelque chose d'assez décisif, c'est-à-dire que j'étais pas simplement comme ça quelqu'un qui passait, qui s'intéressait à elles le temps d'un voyage. Et souvent, lors du second séjour, il y avait une plus grande complicité qui se mettait en place, avec une plus grande confiance, et donc on allait plus loin dans la description avec elles de leur paysage mental, de leurs désirs, de leurs angoisses. Et voilà. Bon, je peux peut-être. Voilà, c'est le cadre. Ensuite, pour élargir un peu la focale, le Congo Brazzaville, c'est un pays qui devrait être extrêmement riche, étant donné l'importance de ses ressources en pétrole et un petit peu en gaz. Mais c'est un pays dont toute la classe politique est incroyablement corrompue, et donc tout cet argent échappe totalement aux Congolais, et il permet aussi aux Européens, évidemment, de se bafouer frais via des compagnies comme Bolloré, Total ou pour l'Italie, la compagnie Eni. Donc ça, c'est des sommes d'argent colossales qui échappent à l'Afrique et qui viennent directement dans nos poches. Je vais juste lire un extrait. Les premiers jours, je suis dans la cour du foyer des filles vaillantes, comme Marlène Schiappa dans un gouvernement. Je ne sers à rien. Une fois passées les présentations officielles, comment amorcer un vrai dialogue, construire la confiance? Elles constituent un groupe et je suis seul. On a vite l'air idiot. Désœuvré, je vais me tourner vers les enfants. Une toute petite partie de la cour leur est dédiée, 20 mètres carrés, et c'est la crèche. Ils ont entre 6 mois et 4 ans, il y a des filles et des garçons. Assis par terre, je m'improvise marionnettiste, sans poupée. Mes mains font mine de se promener sur le muret qui me sépare des gosses, avant de se métamorphoser en terrifiante mâchoire capable de dévorer des enfants trop contents de jouer à se faire peur. Dans ma tête, je suis alors l'horrible croco des marécages puants. Encore, encore ! Ils veulent tous être mordus. Pour varier, je surgis aussi, grimaçant comme une gargouille, et ils courent se cacher derrière les deux berceaux, trop heureux d'avoir un moundélé bien effrayant juste pour eux. En voyant rire la nourrice, les mamans aussi vont commencer à m'observer. Alors je continue. Ce jeu pourrait me rendre sympathique. Au bout d'une demi-heure, je vais prendre une pause et me rapprocher d'elle, sous l'auvent, six poteaux soutenant 20 mètres carrés de tôle ondulée. Sur le tableau noir, les traces du dernier focus. Érection, contraception, préservatif. Comment ne pas sourire? Les tableaux noirs de mon enfant sont peu servis pour ces mots-là. Il y était plus souvent question de Louis XIV, du plus que parfait et des multiples de 5. Pendant une heure, je vais me tenir au milieu du groupe et les écouter se disputer en lingala. Il est d'abord question d'un pas de danse, qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça. Mais une fille arrive que les autres n'ont pas vue depuis quelque temps. Et Nancy décide de se la payer. « Tu ne fais pas attention à toi, t'es épaisse comme si t'avais 30 ans. » « Elle en a 22 », me précise Nancy. « C'est gagné », je me dis, « on s'occupe de moi. C'est une amorce de complicité. » « Nancy encore. Mais va donc faire du footing !» La dispute prend, pour le plus grand plaisir de toutes les filles, électrisées par ma présence. Je suis très bon public. Combat drôlatique, rivalité surjouée, ça balance pas mal. La visiteuse a une grande gueule, mais j'ai l'impression que Nancy ne craint personne qui liste maintenant, pour moi, l'âge qu'elles avaient, chacune, lorsqu'elles furent déviergées. 8, 10, 12, 13, 15 ans. Les filles rient ou elles gloussent, mais sans la contredire, sans jamais la rectifier. Deuxième liste, celles qui se sont retrouvées enceintes alors qu'elles étaient vierges. Alors là, mon sourcil gauche s'envole. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Ah ok, dès leur premier rapport sexuel. Elle en désigne 3 ou 4. Troisième liste, les enfants non désirés. Là, les filles réagissent un petit peu cette fois, mélange de gêne, de fatalisme, de je ne sais quoi. Quatrième liste, celles qui sont connues par le plus grand nombre d'entreprises. Intenable, vive, Nancy désigne une fille. Elle est connue de toutes les compagnies, oui, mais aussi des sous-traitantes. Toutes les filles rient, je ris aussi, mais c'est du lourd. Les boîtes recrutent dans les villages, pour leurs expatriés, des femmes qui resteront une semaine, un mois, avant de recevoir, dans le bureau du comptable, une partie du salaire de l'expatrié pour avoir été sa femme durant 15 jours, 3 semaines. Je me fais tout redire et préciser, car c'est assez fou. On ne te donne pas seulement un logement de fonction, on te le fournit conjugalisé. Beaucoup de prénoms incroyables dans les 4 listes établies par Nancy. Dieu veuille, ma vie, merveille, Diane des nations, reine, bénite, Dieu de vie, grâce et Juliana, dont les 2 petits frères se prénomment chance et gloire. Ces prénoms sont à la fois magnifiques et terrifiants en ce qu'ils mettent la barre beaucoup trop haut, creusant le contraste entre une vie misérable et les promesses non tenues par ces prénoms ambitieux, très coruscants. Que tu t'appelles Dieu veille ou Dieu veuille, comment ne pas être paralysé quand tu rapportes ce que ça dit à la réalité de ta vie? Dieu l'a-t-il vraiment voulu? Dieu a-t-il vraiment veillé sur moi? S'il est complice de ce qui m'est arrivé, je suis maudite? Ou c'est un Dieu moqueur, un Dieu méchant? Avec ces filles qui ont toutes été déjà brutalisées, je vais devoir faire preuve de tact, ne pas donner l'impression de leur arracher des témoignages. Une astuce alors qui fera office de jeu, de présentation et d'entrée douce dans l'écriture des récits de vie. Votre prénom en grand sur la page A4 et avec chacune des lettres qui le composent, vous proposez un mot qui vous permettra ensuite de parler de vous, un mot fort, le bout d'une pelote à dérouler. Un mot qui compte pour vous et que vous débusquez au cœur de votre prénom. Comparé à celui des autres filles, Victoria a presque un prénom sobre. Aura-t-elle cherché à compenser cette très relative discrétion en sortant de celui-ci des mots glaçants ? Incapable de croire elle-même au doux babil de ce prénom, Victoria reste à la merci du sordide qui se tient en embuscade et peut fondre sur elle n'importe quand. Je veux lui parler le lendemain, reprendre avec elle. Mais un des formateurs, M. Jaffet, va me répondre qu'il n'y a pas de Victoria dans ce groupe-ci. On enquête et on finit par apprendre que c'est Lucrèce qui, pour l'atelier, a voulu prendre son second prénom apparemment. Dans ce choix, sans doute faut-il voir un désir d'anonymat relatif, au cas où elle serait amenée à dire ou à écrire des choses trop personnelles. Cet anonymat est presque la seule chose qui reste aux filles pour n'être pas assignée à la vie qui est la leur et dont elles sont grandement prisonnières. Mais enfin, Lucrèce n'est pas n'importe qui si l'on se réfère à l'histoire de Rome. Violée, elle s'est tuée pour prouver que c'était un viol, que son sens de l'honneur était intact. On dit en outre que ce viol entraîna la chute de la monarchie et l'établissement de la République à Rome. C'est un symbole fort, quelque chose du pacte social ayant été violé par le système monarchique, il fallait refonder le contrat social. Victoria connaît-elle l'histoire de cette première Lucrèce ? Du haut de ses 17 ans, Lucrèce aura-t-elle voulu s'éloigner de cette histoire trop lourde ? A-t-elle été violée ? Je n'en sais rien. Elle m'a parlé d'un homme qui aurait tenté de coucher avec elle quand elle avait 12 ans. Elle se serait enfuie. C'est possible, mais ça n'est pas certain. Il est parfois urgent de taire les drames qu'on a pu vivre, le temps de se rassembler intérieurement, de recoller les morceaux de soi dispersés par la déflagration. La moitié des bénéficiaires d'Asie ont été abusés sexuellement. Lucrèce efface Lucrèce pour devenir, aux yeux de l'écrivain français au moins, Victoria, la victoire. Se réinventer, chercher la lumière, inconsciemment sans doute, mais tout de même. Seulement voilà, c'est une victoire à la Pyrrhus, de celle qui laisse un goût amer. J'ai sa feuille A4 sous les yeux, avec le V qui ouvre son nouveau prénom, une belle majuscule dressée comme une enseigne, elle a écrit « victime ». Et cette explication, « j'ai été victime d'une grossesse abandonnée, mais malheureusement avait fait une fausse couche ». Victoria est une victime, tellement victime qu'on n'a pas le temps de croire à la possibilité de la victoire, vérolée d'emblée par ce qu'elle a vécu, endurée. Dès que le prénom se dresse, hop, on lui coupe les jambes, on se moque de son élan. Qui veut crier victoire, gargouille, en fait, victime. Avec le T de Victoria, elle proposera torture et écrira pendant une heure sans s'arrêter.
Merci. J'étais en train de me dire que la position est importante et questionnée d'emblée et tout au long du livre, et en plus ça bouge. C'est, me semble-t-il, hein, le livre une tentative de considération de l'autre dans sa grande altérité, de considération aussi scrupuleuse que possible de qui sont ces filles dans leur réalité tellement autre. Et de surcroît, et ça c'est intéressant dans le travail qu'on fait aussi en le lisant, ça se déplie peu à peu, c'est-à-dire que les premières considérations sont vite refoulées aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes du texte et de la recherche. Je sais qu'il y a eu un moment de grand émerveillement sur leur malentendu, sur le langage, qui est un peu moins présent dans cette version-là, parce que d'autres réalités apparaissent peu à peu. Et la position questionnée en premier lieu, elle l'est depuis la compétence de l'écrivain. Tu dis bien l'écrivain un moment. Et il me semble que c'est de là que ça peut parler et considérer. Je pense aussi sur le problème de la langue française ou la question du jeu, qui est quelque chose qui te fait comprendre avec tes armes d'appréhension et ta compétence dans la situation, un petit peu, alors c'est pour ça que je prends plein de précautions, un petit peu de leur situation, ou du moins qui te fait comprendre un petit peu de ce que tu n'en percevais pas.
En fait, au tout départ, en arrivant là-bas, j'étais très naïf et je me disais, au moins, je suis dans une zone francophone et donc Il n'y aura pas de problème de traduction. C'est-à-dire on pourra se parler en français, on se comprendra immédiatement, etc. Et il m'a fallu au moins 2 séjours avant de comprendre à quel point c'était naïf, idiot de ma part. Puisqu'évidemment, là-bas, le français a obligatoirement un statut très particulier. C'est-à-dire, ces jeunes filles-là n'ont pas la connaissance du fait que la France a occupé le Congo. C'est pas ça la question. C'est une connaissance historique qu'elles n'ont pas. Et je fais une micro-parenthèse parce que c'est vraiment la chose qui me faisait le plus rire là-bas. C'est quand j'allais sur les marchés, 2 fois de suite, c'est arrivé que les mômes me poursuivent. Et la première fois, je n'entendais pas ce qu'ils me disaient. Je ne comprenais pas du tout. Et en fait, ils me disaient « Chinois, chinois, chinois ». Quand même, en sortant du marché, je finis par demander à quelqu'un, je dis, mais quand même, pourquoi il me dit chinois, chinois, chinois? Il me dit, c'est parce qu'il pense que t'es chinois, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas une tête de Congolais, en fait, la nouvelle colonisation, c'est celle des Chinois, et donc tout ce qui n'est pas noir est chinois. Et je me disais, quand même, moi, à la rigueur, qu'on me dise peau rouge, ça passe, mais chinois, vraiment, je ne voyais pas du tout, quoi. Et donc les filles n'ont pas cette idée-là que si elles parlent français, c'est parce que les Français ont occupé le pays. En revanche, il reste dans leur quotidien et dans leur pratique du français énormément de traces de cet héritage-là, c'est-à-dire du fait que le français est une langue qui produit de la violence sur elle, de la violence symbolique ou de la violence réelle. Donc je vais prendre un exemple très très simple. Elles ont toutes été déscolarisées pour des raisons... assez similaires à chaque fois, c'est-à-dire soit parce qu'elles tombaient enceintes et que l'école les renvoyait, soit parce que les parents n'avaient plus l'argent pour payer, soit parce que elles étaient trop mal déjà dans leur peau et dans leur vie pour supporter l'école. Or, le renvoi de l'école, c'est comme les cours à l'école, c'est en français que ça se passe. Donc l'autorité, à ce moment-là, leur contact avec l'autorité, c'est en français, et la brimade, la vexation d'être renvoyé, c'est en français. Alors qu'à la maison, les caresses ou l'affection, si jamais il y en a eu, c'était pas en français, justement. Donc, résultat, le français n'est à aucun moment la langue de la douceur pour elle. Ensuite, quand elle mène cette vie-là de prostitution, d'extrême misère, d'avoir pas de logement fixe, etc., elles sont évidemment donc exposées à la violence, et elles pourraient avoir le recours de la police. Mais la police, c'est en français aussi. Or, la police est complètement corrompue, et évidemment, comme il s'agit de la partie la plus misérable de la société, la police s'en fout complètement de ce qui peut leur arriver à ces filles. Donc là encore, c'est en français qu'elles ne se font pas entendre. Pareil, si jamais la plainte est quand même prise, ensuite devant le juge, c'est en français. Et là, elles savent que de toute façon, le juge ne donnera pas suite. Donc c'est aussi en français qu'elles ne vont pas arriver à se faire comprendre du juge. C'est en français que la description de leur détresse ne sera pas reçue. Donc pour elles, c'est à tous les niveaux, c'est la langue de l'échec. Et puis, si elles sont un tout petit peu attentives à la vie extérieure, dans la rue, par exemple, quand il y a des murs avec les placards des journaux que les gens s'arrêtent comme ça pour lire, ce qu'elles voient, c'est une presse nationale qui parle de Denis Sassou Nguesso, le président de la République, comme étant un grand démocrate, alors qu'évidemment, c'est un dictateur pourri. Et donc, elles se le disent pas, mais c'est là dans leur tête. Le français est la langue dans laquelle on peut dire absolument n'importe quoi. C'est-à-dire on peut faire passer des vessies pour des lanternes. Et moi, j'arrive, la bouche en cœur, et puis je leur dis, voilà, on va parler de ce que vous avez de plus précieux en vous, dans votre histoire. On va parler de comment c'était la vie de famille à la maison avant de n'avoir plus tes parents. On va parler de ce que ça te fait la nuit d'être violenté par des hommes qui sont ivres ou qui sont sadiques, ou etc. Et donc évidemment c'est impossible, parce que si elles savent utiliser le français, en tout cas elles n'ont absolument aucune confiance dans la langue française pour parler de leur intimité, pour arriver à descendre au plus profond d'elles-mêmes et arriver à exprimer des choses que le reste du temps personne ne leur demande d'exprimer. Donc, en fait, plus j'enquillais les séjours, plus je me rendais compte que le français, au lieu d'être quelque chose qui allait nous aider à communiquer, ce fameux français de la francophonie, etc., était en fait quasiment un obstacle. Parce qu'il est dans leur tête, dans leur pratique, il est beaucoup trop entaché de tas de traces de cet héritage colonial dont elles n'ont pas l'histoire, mais dont elles continuent de vivre les morsures au jour le jour, quoi. Ça, c'était un aspect de ta question. L'autre aspect qui m'importe beaucoup, c'est, tu dis, être face à l'altérité. Et en fait, je me dis, en t'écoutant, que cette altérité, c'est-à-dire le fait que ces filles-là vivent des choses dont on n'a pas idée, dont moi j'avais pas idée, c'est-à-dire d'être en permanence exposé à la plus grande violence, être dans un état de fragilité maximale. En fait, je pense qu'un livre qui se présenterait comme ça sur un sujet comme celui-ci ou sur un autre sujet, un livre qui se présenterait en disant « voilà, j'étais face à cette altérité et puis maintenant je vais vous l'expliquer, cette altérité », c'est-à-dire en fait un livre qui réduirait l'altérité, un livre qui dirait « voilà, c'est bon, je ne comprenais pas ces filles, mais ça y est, maintenant je les comprends », en fait c'est un livre qui serait un livre colon. C'est-à-dire, c'est un livre qui coloniserait l'autre, qui le ravalerait complètement en disant « c'est bon, j'ai des explications pour tout ça, c'est bon, je peux vous parler de ces filles-là, je maîtrise complètement ce qui leur arrive et ce qu'elles m'ont raconté ». Et alors, ça, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi, mais je peux le dire maintenant a posteriori, après avoir fait le livre. En fait, écrire ce livre, c'était plutôt écrire pour essayer de circonscrire... juste circonscrire, c'est-à-dire faire apparaître à quel point on est face à un autre monde, à quel point moi j'étais face à un autre monde. Et il y a une citation de Faulkner dedans que je mettais parce que je l'adore, mais en fait je sais maintenant qu'elle correspond au projet du livre. Et c'est une citation qui tourne énormément sur les réseaux sociaux, donc vous l'avez déjà sans doute vu, qui apparaît à chaque fois traduite d'une manière différente. Mais l'idée de Faulkner, c'est qu'on écrit comme on craque une allumette en forêt la nuit, c'est-à-dire que l'allumette ne va pas éclairer la forêt, en revanche elle va faire prendre conscience de l'épaisseur de l'ombre autour. Et ça, je trouve ça fantastique, parce que ça veut dire que l'écriture, elle n'est pas là pour délivrer des explications, qu'elle n'est pas là pour donner des clés de comportement dans le monde, etc. Mais au contraire, la seule chose qu'elle peut faire, au moins très honnêtement, parce que les explications, elles sont toujours un peu malhonnêtes, elles sont toujours trafiquées, etc. Mais au moins, un petit peu honnêtement, c'est faire comprendre à quel point la vie, l'espace culturel, l'intelligence, l'espace mental de ces filles, à quel point il renvoie à une autre construction du monde. À quelque chose de complètement différent. Je peux continuer ? Alors, pour vous donner une idée, mais vous allez voir, c'est une idée qui m'a fait énormément rire quand j'ai commencé à parler de ces voyages-là. J'avais une grande tante qui est morte il y a 2 ans, elle avait 105 ans, je l'ai très très bien connue. C'était une horrible bonne femme qui était invraisemblablement raciste, maladivement raciste. Par exemple, une fois, il fallait que je l'accompagne dans une clinique, la première infirmière qui est rentrée était noire, elle m'a tout de suite dit « ma grande tante, on rentre à la maison ». Enfin, c'était horrible. Mais par ailleurs, elle était très très pratiquante, et donc elle allait au moins 2 ou 3 fois par semaine à la messe. Et un jour, j'arrive pour déjeuner chez elle, et puis elle revenait de la messe, et elle me raconte une anecdote d'une violence pas possible, et qui m'a beaucoup surpris, parce que, étant très pratiquante, elle avait un grand respect pour les gens d'église. Et elle me raconte qu'elle était assise dans le fond de la chapelle, et que le prêtre vient la trouver, traverse toute la chapelle pour venir la trouver. Et il lui dit très gentiment, tout doucement, il lui dit « mais madame, il y a toutes ces chaises vides, avancez-vous, n'hésitez pas ». Et en fait, elle le tacle en lui répondant « ces chaises ne sont pas vides, si vous pensez qu'elles le sont, changez de métier ». Et moi, j'étais vraiment éberlué par la violence du truc, parce que tu sais, t'imagines un curé à la Bernanos qui ensuite va se foutre une balle, quoi, tu vois, en disant tout d'un coup « je suis passé à côté de Dieu, j'ai rien compris », enfin bon, bref. Alors voilà, j'étais sidéré par donc la violence de sa réponse, mais aussi par tout d'un coup la représentation qu'elle avait du monde. C'est-à-dire qu'en fait, elle se dit, ben voilà, tous ces espaces-là, ils sont habités. Jamais je m'étais senti aussi différent d'elle. C'est-à-dire que moi, mon explication du monde, elle n'est pas celle-là, ou en tout cas, elle n'était pas celle-là, quoi. Et à Brazzaville, comme à Pointe-Noire, j'étais face à des adolescentes de 15 ans, dont c'était au contraire la vision du monde. C'est comme ça qu'elles décrivent le monde dans lequel elles sont. C'est-à-dire que c'est un monde qui est 100 fois plus habité que le nôtre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les esprits, il y a les ancêtres, il y a toutes les questions de magie, de sorcellerie, etc. Et il y a aussi les univers différents qui se pénètrent les uns les autres. Il y a les maris de nuit, les épouses de nuit qui descendent et qui vous font des enfants cosmiques. Enfin... c'est incroyable, quand il y a ce climat de confiance et que tout d'un coup elle décrive le monde tel qu'elle le voit, et ben en fait je me disais, ben ma grande tante était vraiment la dernière des imbéciles, parce qu'en fait elle avait 100 fois plus à partager avec ces gens-là qu'avec moi. C'est-à-dire que j'étais plus différent d'elle qu'elle n'était différente de ces filles vivant sans domicile fixe et se prostituant à Brazzaville, quoi. Donc pourquoi je raconte cette anecdote, c'est pareil, c'est pour dire cette chose-là, c'est pour dire que je suis fasciné par nos différences et à aucun moment je ne voulais les réduire. À aucun moment je voulais dire « Ah, mais en fait, on vit les mêmes choses. Ah, mais en fait, on est pareil, etc. » Et je voulais être très modeste dans mes hypothèses d'explication parce que je sais que les explications sont toujours un peu malhonnêtes. Donc je voulais approcher comme ça toutes ces différences-là, dire des fois pour certaines de ces différences mon enthousiasme. Par exemple, ces filles m'ont parlé donc des maris de nuit et des épouses de nuit. Donc c'est, en fait, ça correspond à nos rêves érotiques. C'est exactement la même chose. Et donc, par exemple, une jeune fille m'expliquait des fois, comme ça, tu fais l'amour avec ton mari de nuit et le lendemain matin, tu es trempé, tu es en sueur, tu te réveilles, et ton compagnon ou ta compagne à côté de toi dans le lit te dit « Mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es dans cet état-là ?» Et c'est le but des maris et des épouses de nuit, c'est de nous mettre mal avec nos compagnes et nos compagnons. Et en fait, moi, j'avais en tête l'expression pollution nocturne. Quoi. Je me disais, oui, ce qu'elle est en train de me raconter, c'est le mot, c'est pollution nocturne. Et en même temps, je me suis vraiment interdit de le prononcer, ce mot, parce que je me suis dit, alors nous, on parle de pollution nocturne, et eux, ils parlent de monde qui se mélange, d'univers comme ça, d'univers des esprits qui tout d'un coup se mélange avec l'univers des vivants, etc. Et je me dis, mais je ne peux pas lui dire qu'on appelle ça pollution nocturne. Enfin, je veux dire, c'est comme si je disais à Baudelaire, ouais, ton histoire d'Albatros, j'ai bien compris. Enfin bon, je mélange un peu tout, là. Mais...
Merci. Le livre va dans beaucoup d'endroits et qu'il rejoint. Les plus attentifs et sourcilleux auront remarqué que j'ai commencé par vous voyer Arnaud Bertina et que j'ai fait une faute technique. C'est que je me suis mis à le tutoyer lors de ma première question. C'est un aparté, il ne va pas être trop long, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, je m'en excuse professionnellement.
Tu fais bien.
Et je me suis demandé au tout début, en t'écoutant, parce que du coup, je vais continuer, là, pourquoi ça m'était venu. Alors oui, ça peut être le stress, l'inattention, plein de choses. Mais quand je formulais ma question, j'essayais d'y mettre une forme de délicatesse pour préciser cette complexité, justement. Hein, l'idée du livre, c'est de ne pas être binaire dans le regard de... sur l'autre, justement. Mais il m'a été impossible, formulant ça, de ne pas revenir au tutoiement, puisque, bon, voilà, on se connaît, je suis ton travail depuis assez longtemps, pour une histoire d'engagement aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce livre, spécifiquement, et depuis cette complexité-là, et en cette complexité-là même, t'engage et nous engage, et là, en l'occurrence, c'est là où je me rattrape aux branches sur mon erreur technique, nous engage comme lecteur aussi. C'est-à-dire qu'il est spécifiquement engagé, ce serait peut-être une définition un peu différencier du lieu commun autour de ce qu'est la littérature engagée. Mais j'ai trouvé engagé et engageant, si tu vois ce que je veux dire à cet endroit-là. C'est-à-dire concernant comme lecteur. Parce que les questions de scrupules qui reviennent sans cesse, mais qui avancent, enfin voilà, qui avancent un peu en crabe et qui résonnent avec ton esprit, avec une intériorité profonde, avec de l'intimité, avec de la psyché aussi. T'engages-toi et nous engage-nous sur la considération de l'autre, j'y reviens.
Cette question de l'engagement, on me la pose beaucoup, mais parce que je ne m'y soustrais pas beaucoup, c'est-à-dire il m'arrive de publier des textes un peu sans nuance dans la presse. Pourtant, en même temps, j'ai envie de la mettre un peu à distance, mais je vais dire de pourquoi, parce que c'est d'une manière un peu paradoxale. En fait, dans tous les romans que j'ai écrits jusqu'à présent, à chaque fois, ce qui m'intéressait depuis le début, depuis le premier, qui est apparu en 2001, c'est faire que les histoires que je raconte soient prises en charge par quantité de regards différents, c'est-à-dire pas un narrateur unique, mais au contraire, mettre en crise le regard d'un narrateur unique, de manière à ce que des voix plus faibles, des voix murmurantes, des voix empêchées, se fassent entendre. Ça, c'est vraiment, c'est quasiment le suspense de tous mes livres, ça tourne toujours autour de ça. Et j'avais le sentiment que sur les 4-5 dernières années, j'avais commencé une autre partie de mon travail, justement avec des textes qui étaient plus autour avec un ancrage dans le réel plus fort, plus clair. Donc voilà, des récits qui n'étaient pas obligatoirement des fictions. Par exemple, j'ai un autre livre en cours sur des ouvriers de la Creuse qui ont été licenciés en 2017, etc. Sauf que je me suis rendu compte après que aussi bien ce livre-là sur le Congo que celui que je prépare sur ces ouvriers creusois, ce sont des livres uniquement de redistribution de la parole. C'est-à-dire, c'est des livres, voilà, je passe mon temps à écouter les gens et, ou à dialoguer avec, et ensuite à essayer de faire entendre leur voix, à essayer de restituer cette parole-là, de la restituer dans sa singularité, dans sa bizarrerie, et surtout aussi dans son intelligence. Et donc, en fait, je me dis, ben non, en fait, je fais le même travail depuis le début. Hein. C'est-à-dire que le curseur fiction se déplace, qu'à un moment, il soit très fort en fiction, qu'à un autre moment, il soit au contraire très, très faible. Par exemple, là, il est très fort en fiction parce que, curieusement, tout est inventé. Là, au contraire, quasiment rien n'est inventé. Mais en fait, l'enjeu, il est le même. C'est qu'est-ce que c'est la voix de quelqu'un ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça porte ? Comment ça s'écoute, la voix de quelqu'un ? C'est-à-dire, par exemple, ces filles-là. Je disais tout à l'heure, en français, elles ne peuvent pas avoir confiance dans les outils dont elles disposent en français pour essayer de parler de leur intimité. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est à moi d'essayer d'entendre dans ce qu'elles disent la part d'intime qui n'est pas dite. Mais ça, c'est hyper dangereux, ça. Parce que dans ce cas-là, ça peut être mes projections, ça peut être mon délire à moi, ça peut être ce que j'ai cru comprendre, et puis en fait, je me trompe complètement. Donc, c'est le même travail que dans la fiction, c'est-à-dire faire hyper attention au grain de la voix, faire hyper attention à rendre compte de l'intelligence de chacun. Par exemple, ces ouvriers en Creuse, qui ont pour la plupart arrêté l'école, pareil, à la fin du collège. Je vais le dire très vite, certains d'entre eux s'expriment très mal, sauf que quand vous passez 2 heures avec chacun d'entre eux, en individuel, vous êtes enthousiasmé par leur intelligence politique. C'est-à-dire qu'ils ont tout compris des mécanismes qui les a amenés à perdre leur travail à la fois sur 5 ans, sur 30 ans, c'est-à-dire que les mutations de l'économie, les décisions des propriétaires de l'usine, etc. C'est-à-dire que tout est très très clair. Ils ont absolument tout compris. J'ai appris plein de choses sur le fonctionnement de l'économie aujourd'hui grâce à eux. Donc je me dis, voilà, c'est ça le travail d'un romancier, et donc c'est pour ça que je veux essayer de gommer un tout petit peu cette question de l'engagement, parce que j'ai l'impression de faire la même chose avec des personnages de fiction ou quand j'écoute des personnes, c'est d'essayer de rendre justice à chacun, de rendre la justesse de chacun. Et que ça, voilà, c'est encore une fois, que ce soit de la fiction ou du documentaire, c'est le même travail. En fait, une fois, quelqu'un me disait, quand j'ai fait un roman sur Federer une fois, et quelqu'un me disait, t'as pas eu peur qu'il te fasse un procès ? Et je me suis dit intérieurement, mais tiens, c'est marrant, en fait, on pourrait poser la même question à des romanciers sur leur personnage de fiction. Tu vois ? C'est-à-dire, et t'as pas peur que Fabrice Del Dongo fasse un procès à Stendhal ? Parce qu'en fait, ce serait possible, c'est-à-dire un personnage qui hurlerait d'avoir été caricaturé par son inventeur, quoi. C'est-à-dire un romancier qui justement maltraiterait ses personnages en faisant en fait des caricatures. Et donc on pourrait imaginer un procès intenté par les personnages de fiction à leur auteur parce qu'ils ont été abîmés dans le livre, parce qu'ils n'ont pas été respectés dans leur complexité, quoi.
La complexité, justement, est l'espèce de morale que tu as par rapport aux voix, et je vais me corriger, pas pour me rattraper aux branches, parce que tant mieux si on se trompe, enfin c'est pas le but, mais quand je parlais de l'engagement, j'ai sans doute pas été clair, je voulais dire qu'il m'a semblé, en le lisant, que ce livre, pour être à part, non pas égal, mais au moins partagé avec ce que tu voulais rendre de ces filles, impliquait un type de jeu de première personne qui n'était pas présent dans tes textes jusqu'ici. Oui. C'est-à-dire s'engager de cette façon-là, en direction de l'intime. Alors, il y a forcément deux choses. C'est-à-dire que c'est une expérience bouleversante, donc elle produit quelque chose intimement, mais tu pourrais le taire et tu décides de le mettre en jeu aussi, parce que ça participe de la réflexion, mais aussi pour, enfin, il m'a semblé, pour une espèce de position morale qui est si tout le monde est considérable, je dois me considérer aussi.
Oui. En fait, j'ai découvert il y a 3-4 ans un livre qui est un classique et que sans doute vous connaissez. C'est un livre de Jeanne Favre Saada qui s'appelle Les mots, la mort, les choses, non ? C'est pas ça ? Les sorts, les mots, les sorts, la mort. Bon, vous voyez l'idée, quoi. Et en fait, c'est un livre qui date des années 60. Enfin, c'est une enquête qui date des années 60 et qui a été publiée au début des années 70. Sur la sorcellerie en Mayenne. Et en fait, c'est un livre qui, aujourd'hui, quand on le lit, passe comme une lettre à la poste, alors qu'à l'époque, elle heurtait énormément les pratiques d'ethnologie et d'anthropologie. Pourquoi elle les heurtait ? C'est parce qu'elle en était venue à comprendre, après une enquête qui a duré quasiment une dizaine d'années, elle en était venue à comprendre qu'il n'était pas possible de travailler sur la question de la sorcellerie sans s'impliquer elle-même dans ce qu'elle faisait, c'est-à-dire sans accepter d'être pris dans les rituels, d'être pris dans tout un système de croyances, etc. C'est-à-dire que si elle n'acceptait pas d'y croire et de participer, jamais les gens ne se seraient livrés à elle. Et elle détaille ça très bien dans une très très longue préface méthodologique. Et en fait, en lisant ça, je me suis dit, mais c'est un peu pareil pour moi, c'est-à-dire, je vais au contact de jeunes femmes qui vivent d'abord dans une situation d'immense misère. Donc même si c'était en France... Moi, j'ai la chance de ne pas connaître l'immense misère. Donc, même si c'était en France, déjà, il y a quand même la question de mon regard, c'est-à-dire comment je vais les regarder, à partir de quelle position, comment est-ce que je vais arriver à comprendre ce qui leur arrive, etc. Mais en plus, ce n'est pas en France, c'est au Congo, c'est-à-dire dans un univers culturel qui n'a strictement rien à voir avec celui qui m'a façonné. Troisième critère, ce sont des très jeunes femmes qui se prostituent. Donc il y a la question du masculin, du féminin, il y a la question de la séduction, il y a la question de l'argent, il y a la question de la domination masculine. Toutes ces choses-là sont en jeu. Je ne peux pas en parler de l'extérieur. Ce n'est pas possible. Si j'en parle de l'extérieur, ça veut dire que je les constitue, c'est ce que dit Jeanne Favre-Saada, si j'en parle de l'extérieur à la troisième personne, je les constitue en objet de connaissance. Et je peux donc prétendre que, hop, ça y est, j'en ai fait le tour, etc. Et ce que ça veut dire, c'est que tout d'un coup, je prétends que moi, l'endroit depuis lequel je les regarde, serait un endroit de vérité. Alors que non, moi je suis dans la vie comme elle, quoi. Enfin, je veux dire comme elle au sens où je suis ni plus pertinent pour les regarder et pour parler d'elle. Voilà. Donc en fait, je me suis dit, il faut que j'apparaisse dans le livre. Pas par désir d'être en scène, hein, c'est pas ça, ou par désir de me montrer, de parler de ma vie amoureuse, mais je me disais, je peux pas faire comme si je parlais de nulle part de ces questions-là. C'est-à-dire, mon rapport aux filles, je dois le décrire un petit peu. Mon rapport à la prostitution, je dois le décrire un petit peu. Je peux pas tricher avec ces choses-là. Donc effectivement, j'apparais un peu dans le livre, mais voilà, c'est pour dire d'où je parle, c'est pas pour c'est pas le cœur du bouquin, quoi.
Mais alors du coup, de l'engagement, on est allé vers le social et on s'était dit qu'on en parlerait aussi, donc de Des châteaux qui brûlent, que tu as montré à l'envers, donc je le montre à l'endroit, paru en poche récemment, initialement chez Vertical il y a 3 ans, et je vais décrire un peu un itinéraire qui se fait avec ce livre qui, moi, me semble intéressant, en plus au cœur de vraiment pleinement au cœur de nos problématiques du festival, c'est-à-dire comment tout ça résonne. Des châteaux qui brûlent, il y a un intérêt pour des situations sociales, pour le monde de l'usine, et donc un long chantier de fabrication et d'une intrigue et de voix par une documentation essentiellement extérieure, donc de création par la langue, enfin, il me corrigera, mais quand même majoritairement, je pense, extérieur, depuis un autre endroit social que celui des gens en question. Ça constitue, parce que c'est bien travaillé, une fiction qui sonne vraie et qui est basée sur cette multiplicité de voix là, dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les voix sonnent, juste, on peut en discuter longtemps et tout ça, mais enfin, en tout cas, il me semble à moi qu'elles sonnent juste et qu'elles construisent polyphoniquement un récit qui dise quelque chose du monde par la fiction. Et puis, ce livre sort, entraîne pas mal de débats, des discussions avec des gens, tu rencontres des gens qui t'en apprennent, ça amène cette histoire de GMES en partie que tu évoquais, et ils viennent t'en apprendre, te confirmer certaines choses, peut-être en infirmer certaines aussi. Mais du coup, là, sur le rapport effraction... la fiction et le réel, on est pleinement dedans. C'est-à-dire qu'une documentation rigoureuse fait que tu produis une œuvre de fiction qui dise assez précisément quelque chose du monde tel que tu avais envie de le dire, et projeté dans le monde, ça provoque des discussions réelles, incarnées dans le monde, qui elles-mêmes viennent continuer d'alimenter un projet d'écriture, hein, ce que tu évoquais tout à l'heure. Ça me semble très intéressant, enfin, du point de vue du processus. Je te donne une interprétation que je te laisse compléter et...
Non, Des châteaux qui brûlent, c'est vraiment une fiction, c'est-à-dire c'est un roman, c'est-à-dire que la phase de documentation extérieure, elle est très faible par rapport au temps de travail. C'est-à-dire que, oui, j'ai rencontré des groupes d'ouvriers en grève qui occupaient leur usine, par exemple les Fralib à Marseille, là, qui maintenant font un thé qui s'appelle 1336, les Moulins Morel, etc. Donc j'ai rencontré ça, mais c'était peanuts quand même comme travail de documentation. Le livre est dans la résonance de tout ce qui s'est passé sur le plan social entre 2010 et 2017, mais c'est un, toutes ces voies sont inventées. Moi, je suis. Alors, je ne fais pas partie de cette espèce de courant de pensée qui minore en permanence la capacité qu'aurait la littérature à nous dire quelque chose du monde. C'est-à-dire, je pense que quand on mène le travail d'écriture honnêtement, c'est-à-dire en étant très concentré sur le choix des mots, sur la forme des phrases, je pense qu'on arrive à rejoindre quelque chose de l'énergie du monde. C'est-à-dire que il n'est pas nécessaire d'avoir vécu 150 000 choses et d'avoir rencontré 30 000 personnes. Une seule anecdote, si on la déplie, et si on la déplie lentement, calmement, en se demandant si une phrase qui aura 7 syllabes ou une phrase qui aura 11 syllabes ou 12 syllabes, bah, ce n'est pas la même chose. 12 syllabes, c'est un alexandrin, ça sonne hyper bien à l'oreille. 11 syllabes, c'est boiteux. Donc est-ce que j'ai besoin d'une phrase boiteuse? Est-ce que j'ai besoin d'une phrase... qui est-ce qui est en train de parler? C'est un ouvrier. Alors est-ce que l'ouvrier il va parler avec une phrase boiteuse ou est-ce qu'il va parler avec une phrase au contraire qui est suave à l'oreille? Est-ce que le patron il va parler avec une phrase boiteuse? Est-ce que je vais placer une respiration dans la phrase dès le début de la phrase parce que la personne est hyper angoissée, ou est-ce que je vais laisser la respiration après le point final dans la phrase, et dans ce cas-là ça veut dire que la personne est complètement en paix avec son débit et donc sa vision du monde et donc sa place parmi les autres, etc. Je pense que quand on fait ce travail-là, oui, ensuite au final le bouquin peut sembler hyper informé, mais en fait non, c'est parce que le travail d'écriture il a été fait de manière je sais pas, on peut dire sincère, mais c'est un mot dangereux, mais il y a un peu de ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre, tout de suite après la sortie du livre, je rencontre donc ces ouvriers creusois, et effectivement, tout le travail que j'ai fait depuis 2 ans avec eux, donc de les faire parler sur ce qui leur est arrivé, de les faire parler sur ce qu'ils font depuis qu'ils sont au chômage, etc., et ben, en fait, non, ils m'ont appris énormément de choses. C'est-à-dire que j'adorerais avoir à écrire Des châteaux qui brûlent maintenant, parce que j'ai compris avec eux d'autres ressorts, ou alors ils m'ont rapporté des anecdotes. Par exemple, je vais en raconter une qui, moi, me touche énormément, c'est... Vous savez, on dit beaucoup dans les sphères du pouvoir, que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir industriel, on dit beaucoup, on entend souvent des grands patrons ou des grands hommes politiques, comme par exemple l'actuel président de la République, dire que les Français n'ont pas le sens de l'effort, que les Français ne travaillent pas assez, que truc, que machin. Évidemment, c'est un mensonge, c'est un mensonge incroyable, c'est une malhonnêteté colossale de dire ça. Et je vais vous donner un exemple donc, que j'ai découvert grâce à ces ouvriers en Creuse. En fait, entre 2013 et 2016, il y a eu une sorte de triumvirat qui a possédé cette usine-là. Et en fait, les trois étaient clairement des bandits. C'était une femme et 2 hommes qui ont mis en place, dès qu'ils ont été propriétaires du site, ils ont mis en place un système pour siphonner la trésorerie de l'usine. Le système, il est simple, il est connu. C'est tout d'un coup, vous dissociez les murs de l'activité industrielle et vous demandez à l'activité industrielle de verser un loyer pour l'occupation des locaux, des murs. Là, en l'occurrence, c'était un loyer de 42 000 euros par mois. C'est-à-dire que l'entreprise qui, jusque-là, n'avait pas à débourser 42 000 euros par mois, eh ben, tout d'un coup, devait le faire. Donc, évidemment, les ressources de l'entreprise disparaissent immédiatement. Et donc, au bout de 3 ans, ils se retrouvent presque tous. En tout cas, il y en a 150. Il y a un nouveau plan de un nouveau PSE, et 150 se retrouvent dehors. Une fois que cette histoire-là était claire dans ma tête, je finissais tous les entretiens en leur demandant systématiquement « Si tu devais les croiser, là, ces types-là, dans la rue, est-ce que tu traverserais pour aller leur casser la gueule ?» Eh bien, j'ai été très, très surpris parce que la dizaine de personnes à qui j'ai posé cette question-là, ils m'ont systématiquement répondu non, absolument pas. Et en fait, j'ai compris cette chose en essayant de voir avec eux pourquoi ils me disaient non. J'ai compris cette chose incroyable, c'est qu'en fait, leur dernier orgueil, la dernière chose qui leur reste, c'est justement d'être honnête. C'est justement de, alors que tout le système se fout d'eux, les écrase, les snob, les méprise, les insulte, leur crache dessus quand Macron dit qu'est-ce que c'est que ces gens qui préfèrent foutre le bordel plutôt que d'aller chercher du travail. Tout le système sur le plan symbolique et sur le plan réel les jette. Et eux, ils resteront les derniers à rester honnêtes. C'est-à-dire, ils resteront les derniers à respecter ce système qui, par ailleurs, les malmène et les écrabouille. Et bien ça, si je l'avais eu dans le livre, ça aurait été un ressort dramatique supplémentaire. Le livre en manque pas de ressort dramatique, mais celui-là, il est grandiose. Donc, en fait, ce que j'ai appris en faisant ce travail-là au Congo et avec ces ouvriers-là, c'est que je vais le dire de manière à la fois agaçante et idiote, le réel est incroyable. Le réel est incroyable, il faut juste lui laisser le temps. Svetlana Alexievitch, le prix Nobel 2015, là, qui fait que des livres justement à dimension avec une base documentaire ultra forte, elle fait pour chacun de ses livres, elle fait genre 500 ou 600 interviews. C'est colossal. Et elle explique qu'elle passe toujours énormément de temps avec les personnes qu'elle rencontre. Et elle a cette phrase magnifique, elle dit « Il faut rester très longtemps ». Alors là, c'est plus que 2 heures, apparemment, c'est plutôt 5-6 heures, une journée complète, 2 jours. Elle dit, il faut rester très longtemps avec les gens parce qu'il faut d'abord les aider à se purger de la banalité qu'on a en nous. Elle peut sembler facile, cette phrase, mais en fait, elle est grandiose. Pourquoi ? Parce que tous autant qu'on est là, si on commence à parler politique, par exemple, comme je viens de le faire un tout petit peu, ben on va d'abord, au lieu de dire des choses hyper personnelles que personne d'autre n'a pensé, on va d'abord, pendant 1 heure, 2 heures, on va faire que réciter les éditos qui nous ont plu, le reportage qui nous a plu, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'abord une énorme couche d'écume de mots, de phrases entendues par-ci, par-là, dans des conversations avec des potes, etc. Et que c'est seulement une fois qu'on aura vidé tout ça, que peut-être, aidé par la personne qui vous interroge, on pourra accéder à des strates plus profondes et plus personnelles. Ça, c'est dans tout ce travail-là avec les filles au Congo, c'est ce qui m'est apparu. C'est-à-dire que lors de mes premiers séjours, elles me parlaient, mais en fait, on n'allait peut-être pas très profond. Et quand elles me voyaient revenir 3-4 mois après, là, par contre, elles se disaient « Ah tiens, il revient. Il avait dit qu'il reviendrait, puis il revient effectivement. Ah, puis il passe toutes ses journées avec nous au lieu d'aller sur la côte sauvage se baigner. » Et on allait un peu plus loin. Parce qu'elles voyaient aussi que je me souvenais de leur histoire. Donc elles n'avaient pas besoin de tout me raconter, comment elles ont été renvoyées par leurs parents, comment elles ont été abandonnées, etc. Et donc, si tu laisses qu'une minute comme un micro-trottoir de TF1 à une personne, elle va te dire que des âneries, et tu vas vraiment te dire qu'elle est imbécile, celle-là. Si tu lui laisses 2 heures, tu vas être sidéré par la force de ce qu'elle te raconte, par la capacité à débusquer des choses incroyables. Par exemple, là, ce qui est écrit sur cette...
J'allais proposer ça justement parce qu'il nous reste 8 minutes et que les choses s'enchaînent. Arnaud a fait beaucoup de photos là-bas. Et voilà. On en a plusieurs. On peut passer un moment sur... Vous la voyez aller là-bas, en fait. Elle est d'accord. Là. Toi, tu l'as là.
En fait, sur cette... Ça, c'était le tout premier jour, quand je pensais qu'on allait encore pouvoir écrire. Et c'est une jeune fille qui a 16 ans qui écrit ça. Et ce qu'il a décrit, c'est quand je pleure, ma fille m'essuie les larmes. Et donc elle a 16 ans et sa fille a 3 ans. Et d'être face à des phrases comme ça, où elle sait très bien ce qu'elle écrit, c'est-à-dire elle sait à quel point cette phrase résume, condense toute sa détresse, quoi. Et moi, voilà, ce genre de phrases-là, je suis incapable de les inventer. C'est-à-dire que... Alors, peut-être qu'il y a des romanciers qui sont capables, hein, mais moi, je sais que je ne suis pas capable d'aller chercher une phrase comme ça. C'est-à-dire une phrase qui est sans pathos, et qui en même temps décrit une situation de vie qui est horrible. Une autre phrase incroyable, c'est prononcée par une autre jeune fille et qui m'a dit, elle me raconte toute son histoire, qui est une histoire horrible, et elle me dit, depuis tout ce qui m'est arrivé, je n'arrête pas de prier, mais on n'arrête pas de m'abandonner. Et quand elle m'a dit ça, j'étais estomaqué. Je me disais, oh là là, mais que, toute cette détresse qui est résumée en 4-5 mots, je prie et on n'arrête pas de m'abandonner. Ces phrases-là, je suis. Donc le réel a quand même un truc en plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, quand on fait confiance aux gens, quand on a confiance dans leur intelligence. Intelligence sous toutes ses formes, hein, pas intelligence, je sais lire Derrida, mais il se passe des choses qui sont d'un autre ordre que ce que la littérature est capable d'inventer, même quand c'est par des écrivains géniaux, quoi. Donc pour moi, ça efface un peu la frontière entre fiction et réalité, ça. C'est-à-dire que ça, c'est du langage qui est aussi dis vraiment n'importe quoi, mais qui est aussi punchy que quelque chose d'inventé. On passe à autre chose.
Peut-être précis aussi dans son économie, quoi. Tout simplement précis.
Je sais pas dire, mais je tourne autour d'une idée là que j'arrive pas à bien formuler, mais qui est vraiment l'effacement entre les textes qui viendraient du réel, comme ceux d'Alexievitch, par exemple. Alexievitch, vous la lisez, vous savez que c'est sur des bases d'entretien, mais peu importe, vous êtes estomaqué par la puissance de ce qu'elle raconte et par ce que les gens lui ont confié, quoi, par exemple son premier livre qui s'intitule La guerre n'a pas un visage de femme, qui est une longue enquête sur les jeunes soviétiques entre 15 et 25 ans qui se sont engagés dans l'armée russe pour sauver la Russie, l'URSS en 1940. Mais c'est invraisemblable. Et donc là, la question de dire c'est un travail de journaliste, mais non, c'est pas un travail de journaliste, c'est du langage qui est porté à ébullition, donc c'est pas un travail de journaliste, c'est de la littérature, quoi.
Merci, j'en profite, je le prends comme mot de la fin. Je dois finir parce qu'on a un horaire à tenir, et puis ça m'arrange bien, cette phrase, elle correspond à ce qu'on essaie de creuser aussi dans ce festival. Arnaud va vous dédicacer moult exemplaires de L'âge de la première passe. Donc en avant-première, à côté, là, dans la séance de dédicace. On n'a pas regardé toutes les photos, en tout cas, on ne les a pas commentées. Si tu as envie d'effectivement d'en faire défiler une ou l'autre, c'est là, ils m'ont expliqué. Il y a aussi un livre chez un petit éditeur qui devrait compiler certaines de ces photos d'ici quelques mois. Donc les travaux en communiquent et en appellent d'autres aussi. Donc merci beaucoup à vous, merci Arnaud.
Comment tu les passes ?
C'est compliqué. Il faut faire ça d'abord et ça ensuite. Voilà. Bonne continuation. À suivre à 18h, Antoinette Richner et Jean-Paul Angélibert, où il va être question de fiction, de collapsologie et du rapport de la fiction à la fin du monde. Merci de votre attention et merci beaucoup Arnaud, que vous pouvez donc retrouver à côté tout de suite.